L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 22h30. Nous sommes le 29 janvier 1953. Dans quelques instants, la dernière gardienne des secrets de Rennes-le-Château sera morte. Elle emportera dans la tombe toutes les clés de cette si mystérieuse intrigue. Déjà, la promesse de l'espoir de richesse pour quiconque trouverait le trésor dépasse les frontières. Une fois Marie Desnarnaud auprès de Saint-Pierre, les chercheurs de trésors et les opportunistes en tout genre déferleront sur l'héritage d'un personnage aussi mystique que célèbre. L'abbé Béranger Saunière. Il est 22h30. L'heure H de mon histoire. Les soirs d'orage en hiver sont les plus beaux, pense Noël Corbu. Ce ventripotent gaillard de 41 ans se ronge les sangs depuis 5 jours. La servante de Saunière, la vieille Marie, la seule en capacité de tout raconter, ne peut déjà plus parler. Et puis, comble de malheur, elle se meurt. Il ne quitte plus son chevet depuis 2 jours, hésite même à aller aux toilettes de peur de louper ses dernières paroles. La villa Béthanie, qui se dresse sur les hauteurs du domaine de l'ancien homme d'église, est au cœur de la tempête. Les éclairs frappent les roches dressées dans les vallées avoisinantes. Le spectacle est saisissant. L'atmosphère est de soufre et la vieille Marie, elle, ralentit la cadence. Sa poitrine se soulève et redescend de moins en moins vite. Et pour cause, la vie la quitte. Voilà 3 ans que les Corbus se sont installés avec elle à Rennes-le-Château, contre la promesse d'une rente viagère avantageuse. Elle est devenue la grand-mère adoptive des enfants. Et Corbu, lui, attendait des révélations avec patience et avec une certaine joie non dissimulée, d'ailleurs. Sur Onclair, elle est toujours restée secrète à propos de l'héritage de Saunière. 2 petites phrases, distillées avec prudence, lors de quelques moments d'impatience du nouveau propriétaire, peuvent seules témoigner des secrets dont elle est la gardienne. Un soir d'automne, durant lequel elle préparait une soupe, Corbu lisait son journal. Passant à côté de lui, elle avait lâché, retentissant comme le premier coup de canon d'une bataille, oh, « Les gens d'ici marchent sur de l'or sans le savoir. » L'homme d'affaires tenta de s'engouffrer dans la brèche, mais se heurta au silence de la vieille dame qui était déjà repartie à son potage de poireaux. Enfin, alors que les enfants couraient dans les jardins du domaine à la fin du mois d'août l'année dernière et qu'ils étaient tous deux assis face à l'église, elle eut ces mots. « Ne vous faites plus de soucis pour vos problèmes d'argent, mon cher monsieur Noël. Vous avez été bon avec moi et avant de mourir, je vous révélerai un secret qui fera de vous quelqu'un de riche. » Eh bien, ma chère Marie, c'était le moment de cracher au bassinet. La situation financière du couple est précaire, comme le temps extérieur depuis plus d'un an et... une fortune tombée du ciel ne leur ferait pas de mal. Oui, mais voilà. Il y a 5 jours maintenant, attaque cérébrale de la vieille femme de 85 ans. Bon, elle a survécu, certes, oui. Mais s'enfonce tout doucement vers la mort sans possibilité de parler. Il y a longtemps déjà, la Bessonnière a été terrassée par la même pathologie. Le tribut des damnés, pense Corbu, et sa colonne vertébrale se hérisse d'effroi le long de son dos. Le prêtre vient de passer donner les derniers sacrements. L'espoir n'est plus. Et les yeux fixes, Marie attend la grande faucheuse. Ou le malin, c'est ce nom. Sa cravate trop courte qui s'effiloche, l'homme d'affaires regarde sa poule aux œufs d'or lui filer entre les doigts. D'un air désespéré, il observe sa femme qui, elle, est entrée en piété avec la vieille femme. Elle prie pour elle. « Oh chérie, le Seigneur ne peut plus rien pour cette femme », pense l'homme au pied du lit. Elle a pactisé avec les forces obscures depuis bien longtemps. Dehors, le vent se lève. La tour Magdala, dressée sur le piton rocheux au bout du domaine, semble danser avec lui. « Nom de Dieu Saunière, mais qu'est-ce que tu caches ? Rien n'avait de sens !» Il tourne les hypothèses dans sa tête les unes après les autres, sans mieux appréhender le problème. Le vent, lui, balance d'est en ouest les toitures et les arbres. Le village tout entier maintenant semble au cœur d'un gigantesque cataclysme. Le Graal, les Templiers, des textes impies, Corbus suit maintenant à grosses gouttes dans une chambre froide comme la mort. Comment expliquer la visite de l'abbé chez le pape, lui le petit curé de campagne? La construction de ce domaine qui coûta des millions? Les secrets? Les fouilles la nuit? Le diable en guise de bénitier? La liturgie dans l'église placée à l'envers comme une invitation aux messes noires et à l'hérésie? La Marie, elle, accélère sa chute. Elle semble déjà partie. Bon, elle respire encore, plante ses yeux dans ceux de l'homme d'affaires comme pour lui dire quelque chose. Et il se précipite à son chevet, lui prend les mains. « Oh, pitié, pitié, Marie, mais parlez-moi !» Et pour seule réponse, ce regard déjà vide, précipité dans les larmes. Au fond des orbites, il lui semble déjà voir les flammes du brasier infernal. Voilà que soudain, la foudre frappe la toiture de la tour. Des tuiles tombent dans le vide, la bibliothèque de l'abbé est touchée par la grâce. Dans le ciel se battent Saint-Michel et le dragon. Saint-Georges est dressé sur son cheval blanc immaculé. Il cabre, frappe cet endroit maudit de sa colère. Eux aussi, ils attendent les révélations qui n'arrivent pas. Les enfants ont été réveillés et pleurent dans leur chambre. L'ambiance est glaciale, noire, pesante. Marie n'a pas quitté l'homme des yeux et maintenant un sourire très léger, certes. Un sourire semble se dessiner sur son visage. En face, sa femme n'a pas arrêté de prier, comme pour maintenir enfermées les forces du mal qui envahissent la vieille femme. Soudain, la comptoise du salon en bas sonne la demi-heure. Aussitôt après, la Marie arrête de respirer. La vie l'a quittée et la tempête dehors redouble d'intensité. Saint-Michel et Saint-Georges ont perdu. Elle n'a pas parlé. Pas un seul mot. Corbus est transi d'effroi. Le voilà seul propriétaire d'un lieu qui détient l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire de son pays. Le petit village de Rennes-le-Château, habité par à peine plus de 50 habitants, va rester prisonnier de son intrigue pour le reste des temps. C'était ça. C'était ça la malédiction de Saunière, finalement. Corbus et sa famille décidèrent d'ouvrir un restaurant sur le domaine. Le poids de l'intrigue et du secret, lui, ne l'a jamais quitté. En 1968, accablé par des années de recherche et de désillusion, alors qu'il est entre Fangeaux et Montpellier, sa route a croisé celle d'un platane. La Marie et l'abbé Saunière étaient venus le chercher. Le secret, lui, continue sa course effrénée sans que personne n'ait jamais pu l'intercepter. Notre histoire commence le 1er juin 1885. Il est 9h lorsqu'arrive, tout droit venu de Carcassonne, un jeune homme légèrement joufflu. Il a 33 ans et vient d'être nommé dans cette bourgade isolée de Rennes-le-Château à la suite d'une punition. Professeur à Narbonne et avant cela curé d'un autre village plus agréable, son attitude des plus indépendantes n'a pas plu au diocèse. Face à ceux qui ne rentrent pas dans le moule correctement, l'Église choisit généralement la solution de l'isolement. C'est donc un homme assez peu content d'arriver là, comme vous pouvez l'imaginer, qui débarque en cette belle journée de printemps. Le village qui devient le sien est assez classique dans cette région. Perché en hauteur, entouré par les bois, c'est le lieu d'un ancien oppidum. En plein cœur du massif des Corbières, l'endroit subit déjà les effets dévastateurs de l'exode rural lors de son arrivée. Le charme de la région est tout relatif, et l'isolement est bien total. Rennes-le-Château est à 100 km de Toulouse et plus de 650 km de Paris. À une époque où on circule à cheval ou en charrette, c'est clair, cela limite les possibilités de déplacement comme vous pouvez aisément l'imaginer. La paroisse du village et son église sont situées au cœur du bourg dans lequel vivent seulement 200 âmes, principalement âgées. Des croyants donc, comme la plupart des gens en France à cette époque, mais pour le reste, la situation de l'abbé ressemble à un guet-apens. Essoufflé après avoir gravi les hauteurs permettant d'accéder à l'église, il tombe des nues. Tellement qu'il en lâche ses bagages qui viennent s'éclater au sol. Il est accueilli par le maire qui ressemble plus à un paysan qu'à un représentant de l'État. Et c'est à peine s'il comprend le dialecte du bougre qui peine en plus à retrouver les clés de l'église. Dans les rues adjacentes, les mégères regardent à travers leurs fenêtres le nouveau venu et déjà, Saunière sent peser sur lui le poids du murmure. Oh, je vous laisse imaginer le tableau. Nous sommes loin du paradis. Enfin, le maire a les clés en main. En ouvrant la porte, celle-ci manque de tomber. Consacrée à Marie-Madeleine, cette église n'en a plus que le nom. La toiture est percée. Le sol et les murs subissent des coulées d'eau répétées, certainement depuis plusieurs années. La plupart des vitraux ont été cassés par le vent et ce sont des planches en bois rongées et pourries qui les remplacent. L'intérieur est ravagé par la pluie et l'humidité. Et pour terminer la peinture de ce noir tableau, le presbytère est inhabitable. Censé accueillir le tout nouveau curé, il est aussi rongé par les éléments. L'installation chez une paroissienne, plus impressionnée par le jeune homme que par le Seigneur lui-même, est inévitable, enfin, du moins dans un premier temps. La commune a pourtant demandé expressément des subventions étatiques afin de sauver le monument, mais n'a jamais obtenu de réponse. Tout est là pour renforcer les convictions politiques de l'abbé, profondément anti-républicain et partisan monarchique. En effet, imaginez-vous, peu avant les élections législatives de la même année, il conseille à ses paroissiens de voter pour le candidat royaliste, Tellé du maire, qui se plaint de la situation diocèse. Résultat des courses, on tape sur les doigts de Saunière, privé de traitement financier pendant 6 mois. Rien que ça. Heureusement pour lui, l'évêque de Carcassonne prend pitié de lui et le nomme professeur au petit séminaire de la ville de Narbonne. Les meilleurs auspices ne sont clairement pas au rendez-vous et l'abbé va devoir faire preuve d'une sacrée force de caractère afin de se sortir de là. Dès 1886, il décide de prendre les choses en main. En allant un jour acheter son pain, Saunière croise un homme venu du village voisin. Ce limonadier est un artisan plein de ressources puisqu'il est aussi maçon à ses heures perdues. « À la bonne heure », se dit l'homme d'église. Et rapidement, il décide d'embaucher le fabricant de limonade comme artisan. C'est assez peu pratique, ce dernier effectuant les travaux après ses occupations professionnelles. Mais le travail est bien fait, convient à l'abbé et se fait dans la durée, ce qui permet d'étaler les paiements. Saunière n'est pas encore riche. Et il ne peut payer que grâce aux dons des paroissiens et de certaines de ses connaissances bourgeoises habitant aux alentours. Une bonne opération, en somme, puisqu'à la fin de l'année 1886, le presbytère est enfin habitable. L'abbé s'y installe donc et fait également réparer les toitures de l'église. C'est là qu'on confirme que le clocher est lézardé sur ses 4 côtés, ce qui rajoute des difficultés à celles déjà réglées. La tête du jeune homme est pleine de tous ses problèmes, tellement qu'il devient moins prolixe à la messe et ses homélies ne restent pas dans les mémoires. Les messes de Saunière, c'est la sortie du dimanche et on en rigole devant le potage en rentrant à la maison. Tout doucement cependant, grâce à sa pugnacité et sa détermination à sauver ce qui peut encore l'être, il se fait accepter par ses paroissiens et par ceux qui transitent par la bourgade. Oh, lui, il s'ennuie. Il passe sa frustration en vilipendant la République et ceux qui ne viennent pas aux offices. Il réfléchit à une manière de se sentir moins seul et décide pour cela d'engager une gouvernante. Le droit canon est clair dans ce type de situation. Elle doit avoir au minimum 40 ans. Mais l'abbé Saunière est du genre à ne pas faire les choses dans les règles et ce rebelle à soutane engage une jeune femme de 18 ans. Alors, cette décision entraîne une volée de cancans et de reproches voilés de murmures. Que peut faire le prêtre avec une jeune fille sortie de l'adolescence depuis quelques mois seulement? Vous l'imaginez bien, rapidement, les chuchotements racontent que les deux sont en réalité amants et qu'elle n'a rien d'une gouvernante. L'abbé, lui, fait fi des bruits de couloir. Il a une église à reconstruire, des chantiers à financer et, accessoirement, des cérémonies à célébrer. Toutes ces péripéties lui prennent du temps. La mairie n'est pas vraiment de son côté depuis l'affaire du vote royaliste et le diocèse n'a pas non plus oublié sa punition et ses écarts. Vous rajoutez les paroissiens qui sont certains qu'il prend du bon temps avec sa soi-disant gouvernante et vous avez la situation de cet homme de foi qui porte tout cela sur ses épaules et sur sa tête. Il faut dire qu'en effet, les liens avec sa gouvernante ne semblent pas très clairs. Vous l'aurez deviné, la jeune femme est bien Marie d'Énarnaud, celle qui, au cœur de l'histoire, partagera tous les secrets de cette fabuleuse intrigue. C'est en juillet 1887, lors des premiers travaux à l'intérieur de l'édifice, qu'une étrange découverte va mettre le feu aux poudres.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, nous vivons l'heure H d'un homme aussi intrigant que provocateur, l'abbé Saunière. Et découvrons ensemble le mystère du trésor de Rennes-le-Château. Après une arrivée dans le village marquée par les méfiances et les ragots de ses paroissiens, l'homme d'église a gagné leur respect en procédant à des travaux d'importance sur les édifices religieux de la petite bourgade. C'est durant l'une de ces rénovations qu'une découverte impromptue va enclencher la marche de l'histoire, suivie de près par sa grande amie, la légende. Les travaux prioritaires de Saunière sont maintenant terminés. En effet, et en toute logique, protéger l'ossature, c'est avant tout un gage de survie pour le bâtiment. La parure est belle. Du moins neuve. Passons maintenant à la qualité des diamants qui la composent. L'abbé décide d'abord de commencer par le remplacement du maître-autel, délabré et passablement touché par l'humidité. L'ouvrage est conséquent, tout comme le prix du dit objet. Il organise un nouvel appel aux dons et reçoit 700 francs payés directement par une paroissienne à la manufacture située à Toulouse. La machine se met en route. Avant d'installer la nouvelle œuvre, il faut d'abord démonter celle d'origine. Des ouvriers se mettent au travail en juillet 1887. Venant, pour la plupart, de la ville rose, la belle Toulouse, leur première mission consiste à enlever la dalle et la balustre de l'autel. Le poids est tel qu'ils doivent s'y reprendre à plusieurs fois. Très ancienne. La pierre manque de casser, tout comme le balustre, mais bientôt l'opération est menée à bien. L'abbé n'est pas présent durant la première partie de ce démontage. Les choses ne vont pas réellement se dérouler comme prévu. En soulevant l'imposante pierre taillée, les ouvriers mettent à jour des parchemins nichés dans un pilier ancien. En effet, de petites caches étaient parfois prévues dans ce genre d'ouvrage au Moyen-Âge, plutôt pour y entreposer des reliques religieuses de petite taille. Et comme vous l'imaginez, l'équipe des ouvriers informe le maître des lieux de leur découverte. Tout le monde se met alors d'accord pour dire qu'ils ont été trouvés dans ce fameux pilier. La réalité, elle, est visiblement tout autre. Il est peu probable que les épais feuillets aient pu tenir à l'intérieur. Le véritable endroit de cette découverte, encore aujourd'hui, est un fameux mystère. L'abbé Saunière justifie le fait de les prendre et de les mettre de côté puisqu'ils ont une valeur importante qu'il qualifie même d'inestimable auprès d'un des paroissiens qui assiste à la scène. L'homme va mettre au courant la mairie. Le conseil municipal, qui ne souhaite pas du tout voir disparaître ces traces du passé, exige que l'abbé en fasse des copies, ce qui sera fait. La mauvaise volonté qu'il met à la tâche, déjà, attise les soupçons. Mais que contiennent ces documents, qui semblent écrits en latin, une langue que peu savent lire à l'époque, surtout dans ces coins de campagne reculés? Impossible de le savoir encore aujourd'hui puisque, heureux hasard pour l'abbé, la mairie et ses précieuses copies partent en fumée au cours de la décennie 1910, peu de temps avant la mort de Saunière. Pur hasard? Coup monté? Eh bien, personne ne le sait. Toujours est-il que personne ne retrouvera jamais les originaux non plus. La genèse du secret vient donc de ces fameux papiers, sans nul doute. Du moins ce que les partisans de la théorie du trésor partagent. Concernant l'endroit précis dans lequel ils ont été trouvés, certains évoquent un deuxième pilier spécialement prévu pour les accueillir ou un balustre dévolu à cet effet. Beaucoup de peut-être, d'incertitudes et de mystères dans cette affaire. Si déjà ici votre curiosité est attisée, sachez que cette découverte des parchemins n'est qu'un point de départ. Le nouvel hôtel semble laisser des traces. Du moins, il paraît contenir des messages. Ce maître-autel est composé, chose peu commune, d'un bas-relief réalisé à partir d'une représentation de Marie-Madeleine. Vous voyez, la compagne de Jésus. L'église lui est dévolue. Rien de particulier donc. À moins que... On l'y voit représenté à genoux, dans une grotte. Il semblerait que le paysage soit local. À ses pieds, un livre ouvert, de prières, semble-t-il, et un crâne. La sainte croise ses doigts d'une manière très particulière, comme si elle était atteinte d'une arthrose sévère. Devant elle, une croix en bois mort, mais qui bourgeonne encore. Certainement un miracle du Seigneur. Sous le tableau, une inscription, aujourd'hui disparue, existait également. On remarque tout de même que certaines lettres portaient des accents, ce qui est totalement inhabituel et incongru pour du latin. L'inscription pouvait se traduire comme ceci : Jésus, remède des blessures, unique espoir du pénitent, par les larmes de la Madeleine, efface nos péchés. Vous voyez le genre. Priez pour nous pauvres pécheurs. Rien d'inhabituel dans ces mots. En arrière-plan, un portique et une colonne probablement inspirés du paysage de la Sainte-Baume. Un massif montagneux jouxtant Rennes-le-Château. Une fois que je vous ai dit ça, on est légitimement en droit de se poser bon nombre de questions. Pourquoi un paysage si local alors que Marie-Madeleine est censée avoir vécu à Jérusalem? Pourquoi un crâne? Une grotte? Mystère là encore. Mais Saunière ne s'arrête pas là et il continue ses travaux. Cependant, il demande de moins en moins de dons, parvenant, on ne sait comment, à payer de sa poche une grande partie des nouveautés. Une fois l'hôtel arrivé à bon port, il décide de faire confectionner de nouveaux vitraux, un précieux savoir-faire qui se paye, et ce n'est pas bon marché à l'époque. Il veut également installer une nouvelle chaire, et pour cela, faire rénover le carrelage de la nef est indispensable. Depuis la découverte des écrits, Saunière ne lâche pas d'une semelle ses ouvriers et fait avec eux la deuxième découverte qui nous intéresse, celle de la dalle des chevaliers. C'est du moins le nom qu'on lui donne. Cette sculpture va servir de base au monument aux morts de la commune après la Première Guerre mondiale. Elle est toujours visible d'ailleurs au musée consacré à l'abbé. Mais comment celle-ci n'a jamais pu être repérée avant? L'abbé Saunière n'est pas le premier à faire des aménagements et l'édifice est tellement ancien qu'ils ont été nombreux. L'homme d'église a eu une intuition qui a payé, sans doute échaudée par la précédente découverte. Il fait soulever la dalle, découvrant sa face sculptée contre le sol. Pas repérable donc. Réalisée avec du grès, elle est découpée en deux panneaux. Sur la gauche, un cavalier ou, plus probablement, une femme montant en Amazone une monture buvant dans une auge. Celui de droite représente un cavalier doté d'un bouclier rond. Il tient également un javelot. La dalle n'est épaisse que d'une petite dizaine de centimètres et sa taille ne dépasse guère les 1,40 m. Il semblerait qu'elle soit carolingienne et qu'elle ait donc été réalisée avant l'an 800. Un trésor inestimable. Un ancien registre paroissial datant de la fin du règne de Louis XIV permet déjà d'attester de la présence de la dalle qui sert alors de pierre tombale aux seigneurs locaux. Une pratique somme toute courante. Y a-t-il vu une possibilité de trouver autre chose ou est-il guidé par les parchemins? En tout cas, Saunière décide seul, sans ses ouvriers, d'entamer des fouilles sous la dalle en 1895. Il annonce à la mairie avoir découvert un crâne percé, qu'il décide de laisser sur place. Une équipe de chercheurs a récemment mis au jour ce fameux ossement, qui fut bien retrouvé sous la dalle. D'après expertise, il s'agirait de la boîte crânienne d'un homme d'une cinquantaine d'années, mort entre la fin des années 1200 et celle des années 1300. Un chevalier? Un seigneur? Nul ne le sait. Saunière, lui, a déclaré n'avoir rien trouvé d'autre. Mais des témoins affirment pourtant l'avoir vu sortir de là un magot. Oui, un sac en cuir plein de pièces sonnantes et trébuchantes. Mais ce n'est pas tout. Ce sac aurait contenu également des objets de culte précieux. Jamais personne n'a été en mesure de le confronter sur cette découverte, mais il semblerait bien que le fait soit avéré. Si cette dalle a été placée face contre sol, c'est certainement pour cacher le butin sur lequel il vient de mettre la main. Dans tous les cas, la conclusion de l'abbé est claire. Il y a quelque chose à chercher et à trouver dans cette église et peut-être autour du village. Sa quête ne fait que commencer. Nous sommes le 22 février 1892. Il est 2 heures du matin. Le vieux Robert, l'ancien tanneur du village de Rennes et habitant près de l'église de son cimetière, est réveillé en sursaut. L'homme, veuf depuis 4 ans, se lève avec peine. Discrètement, il tire son rideau et pose le seul œil valide qui lui reste contre le carreau. La vitre, lisse et froide, lui rappelle la rigueur de l'hiver en cours. Le vent extérieur soulève les carcasses des arbres dénudés et la maison de la Germaine en face se crispe à chaque bourrasque. C'est la nuit noire dehors et il ne perçoit aucun mouvement qui puisse lui permettre de comprendre le raffut qu'il entend tout près. Soudain, une lumière de bougie dans un lanterneau. Tiens, ah ben, en voilà une deuxième, et dans le cimetière en plus. Nom de nom, le vieux se redresse, presse un peu plus ses paupières contre le carreau et tente d'apercevoir ce qu'il se trame. Un fantôme ? Peut-être une apparition ? Voilà que les silhouettes s'approchent, longent même la tombe de sa femme. Elle s'arrête un peu plus loin et comble de l'horreur. Le vieil homme remarque des pelles. Son cœur bat dans les tempes. Il creuse, déterre des cadavres, et de sa position, il croit distinguer un homme et une femme. N'y tenant plus, il enfile ses charentaises, son béret et sa robe de chambre. Il sort tout doucement à l'extérieur et longe le mur du cimetière discrètement. Il a fait la guerre à ces foutus Prussiens il y a 20 ans, alors autant vous dire qu'il sait ce qu'il fait. Il prend la décision de contourner l'entrée principale et d'entrer par une porte dérobée donnant sur la vallée. Se cachant derrière un mausolée ancien, il semble retrouver ses jambes de jeune homme et se réjouit finalement de cette escapade. Au loin, les deux silhouettes creusent, enfin, plus exactement, l'une creuse et l'autre semble affairée à pilonner la pierre tombale avec un burin. Le manège dure bien 1 heure durant laquelle, mort de peur et de froid, le vieil homme n'a pas bougé. Bientôt, les deux malfaiteurs rassemblent leurs affaires, descendent dans la cavité, fouillent quelques minutes, remontent, rebouchent le trou et semblent alors décidés à partir. Mais ils arrivent dans sa direction, certainement afin de passer par la petite porte derrière lui. Ni une ni deux, déchirant les charentaises et la robe de chambre offerte il y a bien longtemps par sa belle-mère, ils se précipitent dans le buisson avoisinant. Se souvenant des techniques apprises à l'armée, il bloque d'abord sa respiration, puis la fait ralentir religieusement. Les deux oiseaux de nuit passent à côté sans même le remarquer. Pour le vieux Robert, en revanche, c'est la stupéfaction. Il a reconnu l'abbé Saunière et sa jeune servante. Plusieurs témoignages arrivent aux oreilles de la mairie du village à compter de 1892. Elle constate les dégradations, soupçonne l'abbé qui agit parfois même en plein jour. On avertit même la préfecture. Mais pourquoi diable l'homme de Dieu creuse-t-il des trous dans un cimetière ? À surprenante question, surprenante réponse. Voilà 5 ans que les principaux travaux dans l'église sont terminés et Saunière s'attaque maintenant aux extérieurs. Le cimetière, oui, mais aussi les chemins d'accès, le presbytère. Tout ceci est pour le moins étrange. Il s'absente parfois plusieurs jours, achète un âne sur lequel il charge une drôle de valise. Parfois, il part avec une hotte de viticulteur sur le dos et informe ses paroissiens que c'est pour ramasser de jolies pierres, le tout pour décorer l'église. Robert et les autres ne sont pas dupes, ils n'ont jamais vu un foutu caillou arriver dans la nef. Foutaise donc ! Un jour, alors qu'il se promène, il a remarqué Saunière qui fouillait le sol, battant la campagne alentour comme un fou. Drôle d'occupation quand on y pense. Un soir d'été, alors qu'il a disparu depuis 3 jours, l'abbé rentre sale et couvert de terre, mais semble ravi. Les paroissiens, eux, pensent avoir affaire à un malade. Il n'en est rien. Peu de temps après cet épisode, Saunière commence à augmenter son train de vie. Les dépenses qu'il fait pour le presbytère, l'église et les alentours des deux bâtiments sont faramineuses. Alors qu'elle a été restaurée il y a seulement quelques années, il modifie totalement l'église à son goût, jusqu'en 1897. Le style y est particulièrement baroque, choquant nombre de ses collègues de l'église et certains paroissiens aussi. Tout y est peint à l'aide de couleurs vives et criardes. Le diable soutient le bénitier de l'entrée. Des sculptures en tout genre viennent habiter les lieux. Les fouilles et les rénovations achevées au début de l'année 1898, il décide d'acheter 6 terrains de la commune et les fait mettre au nom de sa jeune servante Marie. Elle devient la légataire principale de Saunières, rien que ça. Durant 8 ans, dépensant sans compter, Saunières fait construire un domaine délirant, complètement hallucinant pour les habitants du village. Un jardin d'agrément est ajouté à l'ensemble, composé d'une ménagerie abritant des singes et des haras. Viennent ensuite 2 tours, une en pierre, l'autre en verre, une serre et en plein milieu, une maison, la fameuse Villa Béthanie. Officiellement, on parle d'un bâtiment existant pour accueillir les prêtres durant leur retraite. Officieusement, l'abbaye reçoit les plus hautes personnalités locales et nationales, les accueillant avec les vins et les viandes les plus chères. Ses dépenses entre 1891 et 1917, l'année de sa mort, sont estimées à environ 2 milliards de francs. À l'époque, c'est une somme tellement délirante qu'elle est digne d'un budget d'État. Si certains remettent en cause cette estimation, les sommes dépensées donnent néanmoins clairement le tournis. C'est là que vous allez clairement penser qu'un curé de village est dans l'impossibilité totale d'engranger de tels revenus sans que l'argent ne tombe du ciel. Vous avez raison. Vous avez raison, mais patience. Il nous est possible de bientôt comprendre certaines clés du mystère. Ce train de vie, ces invités obscurs, tout cela fait grincer bien des dents. L'évêque ne tarde pas à accuser Saunières de trafic de messe. Ses paroissiens pensent que ses proximités royalistes lui permettent d'engranger des dons d'importance. Mais tout de même, plus d'un milliard de francs. Des supérieurs lui tapent sur les doigts, mais sans conséquence. En 1901, il n'en a cure. Il dépense sans compter. Achète robes et parures à la jeune Marie, n'hésite pas à garnir sa bibliothèque de livres hors de prix. Va-t-il calmer le jeu, l'abbé Saunières ? Certainement pas. Rappelez-vous, c'est un rebelle en soutane. Oui, mais parfois, les esbroufes et la recherche du toujours plus finissent par brûler les plus imprudents. L'évêque change à Toulouse au début du siècle et le nouveau apprécie encore moins que son prédécesseur les grands délires de Saunières. Son supérieur lui demande des comptes. L'abbé se défend en arguant que sa communauté est généreuse, mais ses livres de comptes sont truqués. Il est accusé de simonie, c'est-à-dire de trafic d'objets religieux, si vous préférez, et transféré dans une autre paroisse. Refus catégorique du héros de notre histoire. L'évêque le suspend donc en 1910. Comble de l'humiliation, il fait envoyer un autre prêtre pour officier à sa place. Jouant des coudes, Saunières met la pression sur l'église afin d'être réintégré. C'est le cas en 1913, mais là encore, son supérieur ne se laisse pas intimider. En 1915, c'est la suspension définitive, mais pas le renvoi ni l'excommunication. Ses amis l'ont sauvé du déshonneur suprême. Ses moyens de pression peut-être aussi. En tout cas, il continue de faire des messes pirates au sein de son domaine de Rennes-le-Château grâce à une petite chapelle installée dans la villa. D'ailleurs, le nouveau curé se plaint de n'avoir personne à son office pendant que les jardins du suspendu, eux, sont pleins à craquer. De son vivant, la plupart estimaient que son trésor a été obtenu de manière frauduleuse. Mais les paroissiens l'aimaient bien, ce vieillissant abbé un peu borderline. Ainsi se déroule la retraite forcée de Saunières, qui vivra l'éclatement de la guerre de 14-18 avant de subir une attaque cérébrale le 20 janvier 1917. Alité, se cachant mourant, il demande l'extrême onction. Un prêtre se rend au domaine, le confesse et ressort de la pièce livide. Il regarde la Marie avec des yeux ébahis. Et titube. Ce qu'il vient d'apprendre le rend hagard et fait extraordinaire. Il a refusé à l'abbé l'absolution. Cela ne l'empêchera pas de revenir 2 jours plus tard, ravisé et certainement soudoyé pour donner à Saunières les derniers sacrements. Il meurt le 22 janvier 1917, à l'âge de 64 ans. Marie, elle, vivra encore longtemps, comme vous le savez, pour ne s'éteindre qu'en 1953. Fin de l'histoire, donc. Le mystère, lui, reste entier, alors que les deux principaux protagonistes de l'affaire ont quitté la scène. Tentons maintenant de comprendre comment cet homme d'église, vivant dans la piété les premières années de sa prise de fonction, devient subitement plus riche que Crésus.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, nous vivons ensemble l'heure H d'un mystère qui dépasse l'entendement. Au cœur de celui-ci, l'abbé Saunières, un homme d'église dégageant des richesses hallucinantes à la suite de certaines découvertes. L'homme meurt en 1917, bien avant sa servante qui, elle non plus, ne révélera rien. Mais alors que s'est-il passé dans le petit village de Rennes-le-Château? Eh bien, voici quelques éléments de réponse. Vous l'aurez compris, on pense, après la mort de l'abbé, qu'il aurait découvert durant les rénovations de l'église un trésor. Il serait d'une valeur telle, pécuniairement ou symboliquement, qu'il aurait pu faire chanter l'église jusqu'au pape en personne. Cette piste prend tellement d'ampleur que Himmler, sur les ordres d'Hitler lui-même, y envoie des SS faire des fouilles pendant la guerre. Mais quel trésor est capable de provoquer une telle hystérie? Les chercheurs ont avancé plusieurs pistes. Il est possible qu'un trésor très ancien ait été enfoui autour de Rennes. Il peut s'agir de Visigoths, ou plus ancien encore, d'une tribu celtique ayant pillé le temple d'Apollon à Delphes. Celui des Visigoths est la piste la plus populaire, la plus fabuleuse aussi. En effet, il s'agirait du tribut de guerre obtenu après le sac de Rome en 410. Des montagnes d'or, appelées aussi « trésors de Jérusalem ». Certains avancent également la possibilité d'avoir vu arriver à Rennes le trésor de Blanche de Castille, suite à une croisade menée en 1251. Mais comme les autres, cette piste est pour le moins aventureuse. 3 autres pistes de trésors apparaissent plus sérieuses, ou tout du moins plus probables. Il pourrait s'agir soit de celui des Templiers, chassés, persécutés par le roi de France à compter de 1307. Parmi ces reliques, pas que de l'or, mais des documents pouvant mettre en péril l'histoire même du christianisme. Précisons tout de même que cette théorie ne repose que sur la présence de Templiers dans la région. Une autre possibilité est celle liée aux cathares et à leurs richesses nombreuses et avérées. Décidant de se séparer de l'église officielle, ces gens ont été massacrés durant le Moyen-Âge. S'échappant de leur dernier bastion, Montségur, ils auraient emmené avec eux un trésor. Enfin, et aujourd'hui, c'est la piste la plus suivie par les partisans des découvertes de Saunières, un trésor enfoui par le prêtre réfractaire de la bourgade sous la Révolution française. Bien entendu, ce dernier aurait pu cacher dans l'église des pièces d'or. Mais vu le train de vie de l'abbé, s'il a trouvé quelque chose, c'est un véritable magot. Les pistes des trésors, peu convaincantes, que reste-t-il? Eh bien, c'est beaucoup moins sexy, je vous l'accorde, mais Saunières était certainement un escroc en soutane. Les seules preuves dont nous disposons concernant l'enrichissement personnel de l'abbé nous amènent à un trafic de messe, dont il a d'ailleurs été ouvertement accusé. Il aurait donné contre monnaie sonnante et trébuchante des messes aux défunts, aux malades, etc., dans un cadre purement privé. On parle ici de 100 000 intentions de messe données par l'abbé en 20 ans. Le dernier filon exploité en date nous ramène à une piste politique. Rappelez-vous, l'homme d'église appelle à voter royaliste au début de sa prise de fonction, ce qui entraîne une plainte de la commune à ce sujet. Lui et son frère auraient pu être des intermédiaires ou des propagandistes, à la solde des royalistes et ainsi s'enrichir considérablement en réalisant des missions. Quoi qu'il en soit, le trésor supposé ou réel de la Bessonnière continue de faire couler beaucoup d'encre. Comment expliquer des dépenses d'au moins 1 milliard de francs, uniquement par de fausses messes et des contrats passés avec un mouvement politique? Reconnaissez-le, il est assez aventureux d'imaginer que ce soit suffisant. En guise de conclusion, afin d'élargir votre prisme de recherche, il ne me reste plus qu'à vous énoncer le lien qui existe entre le peintre Nicolas Poussin et la Bessonnière. En 1639, le célèbre peintre français réalise une œuvre intitulée « Les bergers d'Arcadie ». Cette région est une zone de la Grèce antique. L'homme d'église fait un jour réaliser une copie de ce tableau, réputé pour être une clé vers un trésor. En effet, 3 bergers et une bergère se trouvent devant un tombeau dont l'épitaphe indique en latin « Et moi, je suis en Arcadie ». Vous ne voyez pas le rapport ? Près de Rennes-le-Château se trouve une commune du nom de Arc. Et si Poussin ne faisait pas référence à la Grèce, mais à la France ? Le paysage en arrière-plan rappelle effectivement les monts autour de Rennes-le-Château. D'ailleurs, dans la région, effectivement, un tombeau d'une ressemblance si frappante avec le tableau a longtemps existé. Mais il a été construit au XXe siècle seulement, donc le peintre n'a pas pu l'utiliser comme modèle. Le propriétaire du terrain dans lequel il se trouvait, exaspéré par les chercheurs de trésors, véritable Indiana Jones en herbe qui venait sur ses terres, le fit raser en 1988. Fin de l'histoire cette fois. Mais le mystère, lui, reste entier. Voilà donc pour ce récit palpitant que j'ai eu le plaisir de vous partager grâce à la complicité de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.